Voilà, Dieu soit béni. Bonjour à tous. J'essaie de m'éloigner. Alors, on invoque le Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Prions. Ô Dieu, illuminez les cœurs de vos fidèles avec la lumière du Saint-Esprit. Accordez-nous de penser ce qui est bien, selon ce même esprit, et de jouir toujours de sa consolation, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Jésus, doux et humble de cœur. Ô Marie, conçue sans péché. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Alors, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de rappeler, vous me dites, de rappeler le charisme de la garde d'honneur, c'est clair pour tout le monde. Hein, est-ce que c'est bon? J'ai affaire à des zélés gardes d'honneur qui n'ont pas peur de sortir sous la pluie, hein, par ce mauvais temps. Alors, donc, nous avions entrepris la dernière fois de commencer à commenter la première apparition, hein, que va vivre Sainte Marguerite Marie. Et on s'était arrêté entre autres sur le mot « présence divine ». Et nous avions vu ensemble que c'est la grâce, hein, c'est la vie divine que Dieu veut nous partager. Et pour nous la partager, il institue les sacrements et entre autres le baptême. Et aujourd'hui, je me propose de le voir en somme les effets du baptême pour pouvoir aborder la question qu'on a tous malheureusement à cause de notre entourage qui n'est pas toujours évangélisé. C'est-à-dire, voilà, est-ce que Dieu veut en tout cas que tous soient sauvés, mais malheureusement, pour être sauvé, il faut être marqué, hein, par la grâce sanctifiante qui est donnée par le baptême, et tout le monde n'est pas baptisé dans nos entourages, et on, du coup, on se dit, et même dans nos connaissances, hein, eh bien, donc celui-ci sera donc pas sauvé. Alors, il ne faut pas mettre en enfer ceux qui ne le seront pas, et ceux qui sont qu'on aurait tendance à mettre au paradis tout droit, des fois, c'est pas tout à fait le jugement que Dieu aura sur la personne. Donc, pour conclure, il faut juger personne. et on va prendre d'autant plus conscience que Dieu est miséricordieux, et surtout que ce qui nous peut nous paraître, comment dirais-je, un péché, la personne, notre voisin, n'aura pas conscience de le faire en fonction de sa raison, si elle est plus ou moins éclairée. Mais ceci dit, il y a quand même des normes données par l'Église pour savoir à quel moment, sans être passé par le baptême, justement, sans avoir contracté cette grâce, parce qu'on peut avoir la grâce sanctifiante sans avoir été marqué par le baptême, hein. On va voir les effets du sacrement du baptême. Alors ça va sûrement pour vous être de la révision, mais pourquoi dans ma prière je me disais je pourrais très bien faire l'impasse et puis directement arriver sur la question qui est un petit peu qui nous intéresse plus peut-être. Mais on est en temps liturgique du carême, et ce temps liturgique qui est marqué par la pénitence, la conversion, on a tendance à la déconnecter de cette réalité qui est le renouvellement de nos promesses du baptême lors de la vigile pascale. Et on ne peut pas envisager la pénitence du carême sans ce lien avec justement les promesses du baptême. Si on ne sait pas les effets et surtout les effets et les promesses, sur quoi on va se baser pour envisager la pénitence du carême, du moins la conversion du carême? Alors en rigolant, je le dis à chaque fois, c'est le petit carré de chocolat que je vais arrêter de manger pendant le carême. Bah, c'est déjà beaucoup, sûrement, mais c'est vrai que c'est pas suffisant. Et voilà, c'est aussi en cette période liturgique que l'Église, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, va baptiser. Donc, qu'on soit baptisé ou non, normalement, on avance tous vers la veillée pascale, vers Pâques, avec cette optique de renouveler, hein, nos promesses. Donc, il me semblait bon, pour mettre les bonnes pièces du puzzle dans le bon sens, de commencer avec justement qu'est-ce que les effets, hein, de ce baptême, cette grâce, tout ça que nous avons reçue, qui est au-delà, parce que sans cette grâce, eh bien, Dieu ne peut pas se communiquer à nous, Dieu ne peut pas nous habiter, Dieu ne peut pas nous sauver, hein, parce qu'on ne sera pas sauvé par nous-mêmes, mais par lui. Alors les différents effets du baptême, alors je pioche bien sûr beaucoup dans le catéchisme de l'Église catholique et toujours du côté de Monsieur Doja, là, ce diacre, hein, qui donne la possibilité de donner de mettre la doctrine à la portée des laïcs, comme il l'aurait souhaité que les laïcs s'engageant davantage et de plus en plus dans les diocèses, dans les différents groupes de catéchèse, justement, eh bien, soit au niveau intellectuel et doctrinal des séminaristes, ceux qui se préparent au sacerdoce. Alors, les différents effets du baptême sont signifiés par les éléments sensibles du rite sacramentel. Donc, on va l'eau, hein, l'onction du Saint-Crème. La plongée dans l'eau fait appel au symbolisme de la mort et de la purification. Et cette eau, on va la retrouver aussi dans la veillée pascale. Mais aussi de la régénération et du renouvellement. Les deux effets principaux sont donc la purification du péché et la nouvelle naissance dans l'Esprit Saint. Alors pour la rémission des péchés, par le baptême, tous les péchés sont remis. Le péché originel et tous les péchés personnels, ainsi que toutes les peines du péché. En effet, en ceux qui ont été régénérés, il ne demeure rien qui les empêcherait d'entrer dans le royaume de Dieu, ni dans le péché d'Adam, ni le péché personnel, ni les suites du péché, dont la plus grave est la séparation de Dieu. Par contre, dans les baptisés, certaines conséquences temporelles du péché demeurent cependant, telles les souffrances, la maladie, la mort ou les fragilités inhérentes à la vie comme les faiblesses de caractère. Si le baptême efface, hein, ce péché d'Adam, il n'efface pas ce qu'on appelle la blessure. Et on reste marqué par le péché originel en ce sens. Et donc, par cette blessure, comment on va le ressentir dans notre être? Ce sont ces facultés qui vont être touchées par cette blessure. L'intelligence qui, faite pour le vrai, devient blessée d'ignorance. Si en somme on n'avait pas eu le péché, il n'y avait pas eu le péché originel, on aurait toutes les trois facultés de l'âme, aucun obstacle à les exercer. À cause de cette blessure qui est une suite du péché originel, eh bien, on n'a pas notre volonté libre, notre intelligence libre et notre raison libre pour prendre nos décisions, hein, pour mener le combat spirituel. Donc, d'emblée, pour mener le combat spirituel, il faut prendre conscience qu'il y a cette blessure. Donc, que par moment, la volonté ne réponde pas à la raison ou que l'intelligence plie devant la sensibilité qui est à fleur de peau, bah, c'est les conséquences de la blessure du péché originel. Alors l'intelligence qui, faite pour le vrai, devient blessée d'ignorance et d'erreur. La volonté qui, faite pour le bien, devient blessée de malice. Les passions qui, faites pour obéir à la raison, se révoltent contre elle et nous blessent d'infirmité et de concupiscence. L'imagination qui, faite pour donner un appui sensible aux facultés spirituelles, les entraînera dans sa fantaisie sans règle et deviendra instrument de tentation. Les sens qui, faits pour nous mettre en contact avec le ciel, le réel, deviendront des convoitises. La nature porte la tare, la blessure, d'avoir mis sa complaisance en elle-même au point de dédaigner Dieu. Et ça, on aura toujours à se battre contre ça. Hein? Alors, la petite, c'est pour ça que dans l'histoire de l'Église, on a eu tendance à une époque, hein, de se faire baptiser au plus tard de sa vie, parce qu'évidemment, c'était intéressant dans le sens où on retrouvait justement cette innocence baptismale, donc comme un tout petit bébé qui vient de naître, juste marqué par cette blessure, mais voilà, on était exempt de tout péché, donc l'apport du paradis nous semblait quand même plus facile, elle s'ouvrait ouverte, en tout cas quand on se présentait. Et ben après, voilà, c'est le, je dirais, on évite, en somme, et c'est peut-être dommage, de tout ce combat, hein, de tout ce combat spirituel qui peut nous faire peur, mais dans lequel Jésus va se donner et avec lequel on va rentrer dans une intimité, hein, mener une vie dissolue parce qu'on n'a pas rencontré Jésus. Bon, ben voilà, ça vaut ce que ça vaut. Mais par contre, volontairement attendre à l'extrême pour se faire baptiser, pour être sûr que on rentre au paradis, on le voit là face à face. D'une part, c'est la présomption, donc c'est de l'orgueil en somme. Hein. C'est tenter Dieu. Hein. Et donc là, heureusement que l'Église a rappelé justement, puis a amené a développé beaucoup le baptême des petits enfants. Et par contre, il peut s'avérer aussi hein, que moi j'ai un membre comme ça de ma famille éloigné qui, ancien franc-maçon, voilà, il résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale, un homme assez original, qui comment dirais-je, demande le baptême à 80 ans par l'intermédiaire de ses petits-enfants, hein, qui comment dirais-je, avait touché en fait contre son cœur de vieux grand-père. Et du coup, à 80 ans, il a demandé le baptême. Et à l'approche de la veillée pascale de cette année de ses 80 ans, la température a commencé à apparaître. Hein, donc, il est commencé à tomber malade. Et ça m'a toujours impressionnée. Donc, il est mort quelques jours après la veillée pascale. Donc, ça a été une grâce pour lui parce que la porte du paradis, là, s'est ouverte pour lui. Alors que, bon, il y avait une vie derrière... lourde, bien chargée. Mais quand son fils est venu le chercher dans la chambre, il a été baptisé à Solesmes, et quand il, par l'abbé de Solesmes, quand il est venu le chercher dans sa chambre pour faire la répétition de la cérémonie, eh bien, il a trouvé la chambre un vrai champ de bataille. Et il dit à son fils, on s'est bien battu. Il faut savoir hein, que justement, si on remonte, si on fait mémoire du péché originel, comme nous l'avions vu ces dernières rencontres, eh bien, il y a quand même enfin, s'ils ont péché, nos premiers parents, c'est qu'ils ont été tentés par Satan. Et il ne faut pas qu'on oublie, hein, dans justement cette puissance du sacrement, que le Satan est mis dehors. Hein, par le baptême. Et là, ce monsieur, eh bien, a combattu contre Satan à l'idée d'aller se faire baptiser. Donc, il savait très bien l'autre qu'il allait être mis hors de lui, hein, parce qu'il y avait des portes ouvertes. Hein. On n'est pas franc-maçon sans. Enfin, moi, je ne vais pas faire de polémique là-dessus, mais il faut quand même se dire que la franc-maçonnerie est quand même l'église de Satan. Donc, il faut appeler un chat un chat. Et c'est sûr que, ben voilà, en ayant été là-dedans, il avait contracté des liens. Et voilà l'enjeu du baptême, hein. De mettre, tout le monde ne fait pas partie de la franc-maçonnerie, tant mieux, mais voilà l'enjeu de vivre cette grâce du sacrement. Alors, après cette rémission des péchés, une créature nouvelle, deuxième effet, le baptême ne purifie pas seulement de tous les péchés, il fait aussi du néophyte une création nouvelle, un fils adoptif de Dieu qui est devenu participant de la nature divine. Sans baptême, on ne peut pas espérer lui ressembler. Membre du Christ, sans baptême, donc sans cette grâce sanctifiante, on ne peut pas faire partie de l'Église visible. Et co-héritier avec lui. Temple de l'Esprit Saint, sans la grâce du baptême, l'Esprit Saint ne peut pas nous habiter. C'est intéressant aussi hein, pour discerner voilà, l'émotion de l'Esprit Saint, si on n'est pas régulier au sacrement de pénitence, de réconciliation, eh bien la grâce sanctifiante va perdre, on va dire, sa force Et du coup, l'Esprit Saint, l'inspiration sera plus difficile. La très sainte Trinité donne aux baptisés la grâce sanctifiante, donc la participation à la vie de Dieu, la grâce de la justification, ce qui implique purification et vie nouvelle, état d'amitié avec Dieu, don stable de l'Esprit Saint. C'est le salut, la justification. Alors cette grâce le rend capable de croire en Dieu. Sans la grâce sanctifiante, on n'est pas capable de croire en Dieu, d'espérer en lui et de l'aimer par les vertus théologales. Alors quand on entend des parents, des jeunes parents, on ne le baptise pas, on le laisse faire son choix quand il sera adulte, quand il aura les moyens de le savoir. En gros, on lui prive en somme de la grâce de savoir s'il veut vivre de Dieu. Hein. Soit il vivra de son baptême, soit il le laissera comme beaucoup, malheureusement, comme une plante desséchée. Hein. Mais c'est le baptême qui donne la possibilité, en tout cas la grâce, d'aimer, d'espérer et de croire. Alors en somme, quand on reçoit le baptême, la grâce sanctifiante, on reçoit les vertus théologales. Voilà. La foi est la vertu théologale par laquelle nous croyons en Dieu et à tout ce qu'il nous a dit et révélé et que la Sainte Église nous propose à croire parce qu'il est la vérité même. Croire n'est possible que par le secours du Saint-Esprit. Par la foi, l'homme s'en remet tout entier libre à Dieu. La foi, c'est pas parce que j'ai compris que je peux croire. Aujourd'hui, c'est ça la foi pour beaucoup. Hein. Si vous me démontrez que le Saint-Sacrement c'est Jésus, je peux croire à la présence réelle. Non, la foi c'est je crois parce que j'adhère à quelque chose qui me dépasse. Mais par contre, dans ma raison, je veux croire. Donc il y a derrière une attitude d'humilité. Je crois que je peux faire confiance à telle personne, mais c'est gratuit parce que je ne pourrai jamais le vérifier. C'est la même démarche. Hein. Alors aujourd'hui, c'est compliqué hein, pour nos manières de penser hein, et de fonctionner. L'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons, comme notre bonheur, le royaume des cieux et la vie éternelle, en mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en prenant appui sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. Voilà tout ce qu'on peut lire de l'Évangile, l'espérance qu'on a dans les paroles du Christ à travers les évangélistes, c'est une vertu qui nous est donnée et qu'on puise dans la grâce du baptême pour pouvoir y croire et pour pouvoir espérer à la vie éternelle. Et c'est dans votre entourage, voilà, les gens qui n'ont aucune espérance, c'est compréhensible. Ça vient de la manière dont on vit et du baptême. Hein, c'est pas l'antidépresseur qui me fait espérer une vie nouvelle. Hein. Donc c'est les dépressions, même si on peut avoir recours à des médicaments, mais pour être une ancienne préparatrice en pharmacie, ça ne solutionne pas tout, les médicaments. S'il n'y a pas une vie de foi derrière, vous mangerez du médicament mais tout le long de votre vie. Dieu qui nous a fait peut très bien apporter par sa grâce sanctifiante, je dirais, un supplément jusqu'à supplanter le médicament. Alors ça, tout dépend de la manière dont on va vivre de son baptême. La charité est la vertu théologale par laquelle nous aimons Dieu par-dessus toute chose pour lui-même et notre prochain comme nous-mêmes, pour l'amour de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui diffuse la charité dans nos cœurs. Donc on est donc loin de toutes ces œuvres. Alors j'ai rien, bien entendu, contre hein, toutes ces démarches humanitaires qu'on peut faire. La charité, l'amour qu'on a pour faire le bien, pour souhaiter le bien à notre frère, à notre sœur, eh bien, je veux dire même à nous-mêmes, vient de la vertu théologale de charité. Ça vient de l'Esprit Saint. Hein? Donc plus vous puiserez dans la grâce de votre baptême pour aimer vos ennemis, pour souhaiter du bien à quelqu'un qui vous a fait une crasse, excusez-moi du terme, mais c'est ça, eh bien, ça ne vient pas de vous. On ne peut pas aimer à la manière de Jésus sans la grâce sanctifiante. Hein? Sinon, qu'est-ce qui se passe? comme on est des orgueilleux, ça c'est inscrit, c'est malheureusement ontologique, c'est inscrit en nous, eh bien on cherchera notre intérêt derrière l'acte qu'on posera. Il n'y a que l'amour pur, cette vertu théologale qui nous donne de faire du bien de façon désintéressée, sans chercher notre intérêt. En somme, pour Dieu. Alors ces vertus théologales vont être enrichies au baptême. Vous recevez donc la grâce sanctifiante, les trois vertus théologales, les dons du Saint-Esprit. La vie morale des chrétiens est soutenue par les dons du Saint-Esprit. Ceux-ci sont des dispositions permanentes qui rendent l'homme docile à suivre les impulsions de l'Esprit-Saint. Les dons de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de science, de piété et de crainte rendent les fidèles dociles à obéir avec promptitude aux inspirations divines. Voilà. Sans la grâce sanctifiante, c'est pas possible de vivre des dons du Saint-Esprit. Et comme ça suffit pas, Dieu est bon, pour mener le combat, il ajoute, on a donc en plus des vertus théologales, on va dire les vertus morales, hein, qui gravitent autour des vertus cardinales. Et ça, on a tout ça au moment où l'enfant est plongé hein, dans l'eau et à la voix du prêtre, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les vertus morales sont humainement acquises. Faisons la différence, c'est des termes théologiques, mais c'est facile à comprendre, infuses, aucun mérite de notre part, acquises, c'est pas justement, bah c'est acquis, c'est bon, non, acquises par l'effort. Donc les vertus, on va s'appuyer sur les vertus infuses qu'on reçoit, on va dire gratuitement par le baptême, mais après l'acquisition de la vertu, par exemple de patience, une vertu morale, il va falloir poser des actes, hein, régulier pour acquérir la vertu de patience. Et on s'appuiera sur la vertu infuse, par exemple, de tempérance. Mais c'est un travail qui est à mener grâce à la grâce sanctifiante. Sans baptême, c'est des traits de tempérament. Quelqu'un qui est patient, il y a des gens qui sont naturellement patients, mais ce n'est pas de la vertu. Ou un tempérament doux. Tant mieux pour lui, mais c'est pas de la vertu. Donc ça ne mérite aucune grâce pour les autres. Vous ne collaborez pas ainsi au mystère de la rédemption pour vos frères et sœurs. C'est, en somme, pour votre vie, votre confort. On parle beaucoup du confort. Si c'est confort pour vous, tant mieux. Ça va relever de ça, d'un confort pour vous. Je vis bien en société, mais du coup, je me soucie que de moi. La vertu nous fait nous soucier de l'autre, elle nous fait acquérir des mérites. Hein. Là, on rentre dans une démarche de salut pour notre frère et sœur. Du coup, on est bien dans la démarche de la guerre d'honneur. Alors, un petit numéro pour les vertus morales cardinales. Donc, au catéchisme de l'Église catholique 1804, les vertus morales sont humainement acquises. Elles sont les fruits et les germes des actes moralement bons. Elle dispose toutes les puissances de l'être humain à communier à l'amour divin. Les vertus cardinales regroupent toutes les autres autour d'elles. Il faut vraiment les voir comme gravitant les autres autour d'elles. La prudence, première vertu cardinale, dispose la raison à discerner notre véritable bien et à choisir les justes moyens de l'accomplir. Donc vous voyez, dans vos discernements au quotidien, sans cette vertu, vous allez vous tromper. La justice maintenant consiste dans la constance et ferme volonté de donner à Dieu et au prochain ce qui lui est dû. Voilà, donc les falsifications de factures, les mauvaises déclarations, les fausses déclarations, la vertu de justice nous met dans la vérité devant Dieu. Et là, on doit rendre ce qu'on doit. Hein. Et au prochain, à l'État, mais surtout à Dieu. Hein. Donc, en somme, même la vie de prière, si on s'appuie sur cette vertu de justice, on doit rendre à Dieu un temps dans nos journées. C'est justice, il nous a créés. La force, maintenant, assure dans les difficultés la fermeté et la constance dans la poursuite du bien. Voilà. Et aujourd'hui, ô combien elle nous est nécessaire pour tenir la force. Mais c'est pas je remonte mes manches et ou je serre les dents et j'y arriverai à tenir face à l'adversité ou face à une agressivité, dans mon travail par exemple. Non, je vais puiser dans cette présence qui m'habite depuis mon baptême la force de trouver, par exemple, la paix dans l'agressivité, dans mon entourage, dans mon travail, dans ma famille. Donc c'est, je laisse la vie divine m'habiter davantage grâce à l'exercice de la vertu de force. Après, la tempérance, et c'est la dernière, modère l'attrait des plaisirs. Aujourd'hui, elle est plus que d'actualité. Et procure l'équilibre dans l'usage des biens créés. Voilà, elle nous donne la grâce de savoir ce qu'on doit rejeter ou garder dans tous ces biens qui nous sont proposés. Tous les biens créés ne sont pas nécessaires à notre sanctification, au contraire, elles sont des pierres d'achoppement. Les vertus humaines acquises par l'éducation, par des actes délibérés et par la persévérance sont purifiées et élevées par la grâce divine. Voilà. Alors, dans le terme qui est un peu qu'on retrouvait dans les livres de théologie, on appelle ça, c'est l'appareil surnaturel. Tout ce que je viens de vous présenter, ça vous sera, c'est donc nécessaire, c'est le cadeau par excellence. Dieu il nous met sur la terre, hein, il nous donne sa création, il nous dit de nous multiplier et de collaborer à sa création, à son développement, et il nous en donne les moyens. Alors, ainsi, tout l'organisme de la vie surnaturelle du chrétien a sa racine dans le Saint-Baptême. Et c'est avec ce baptême qu'on va pouvoir envisager la sainteté. Sans baptême, ce n'est pas possible. Alors, autre effet, on a dit rémission des péchés, créature nouvelle, incorporation à l'Église, corps du Christ. Donc, c'est ce qui va nous intéresser tout à l'heure quand on va dire sans la grâce sanctifiante, ceux-là ne font pas normalement partie de l'Église, membres visibles de l'Église. Le baptême fait de nous des membres du corps du Christ, dès lors ne sommes-nous pas membres les uns des autres. Le baptême incorpore à l'Église. Des fonds baptismaux naît l'unique peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance qui dépasse toutes les limites naturelles ou humaines des nations, des cultures, des races et des sexes. Aussi bien est-ce en un seul esprit que nous tous avons été baptisés pour ne former qu'un seul corps. Et là, on reconnaît Saint Paul, ce qui veut dire que, en somme, aujourd'hui, les guerres, si on vivait, en somme, ce lien qui est cette grâce du baptême, ce lien entre qui normalement existe, même s'il est invisible à nos yeux, on doit tous nous considérer les uns les autres comme des frères et sœurs en Christ. Parce que comme on va voir tout à l'heure, on ne sait pas qui et qui n'est pas marqué par la grâce sanctifiante et on est tous en chemin. Donc cette incorporation au corps du Christ est une réponse pour peut-être mettre en place quelque chose au niveau de notre carême pour la sanctification. Comment je considère mon voisin que je vois tous les jours, avec qui j'ai des difficultés, il est comme moi, membre de l'Église, incorporé au corps du Christ. L'unité des chrétiens, autre effet, le lien sacramentel du baptême permet cette unité. Le baptême constitue le fondement de la communion entre tous les chrétiens. Donc c'est pas, et c'est au-delà où on vérifie dans une communauté religieuse, on ne s'est pas choisi, on a des éducations différentes, des âges différents, même si on est un petit peu toutes dans le même, dans les mêmes âges, mais quand même, cette unité, cette communion qu'on a entre nous, elle ne vient pas du fait qu'on pense la même chose ou qu'on vit même la même règle. Parce qu'on peut vivre une même règle différemment, on va mettre l'accent sur tel et tel aspect de la règle. L'unanimité ne se fait pas autrement que par ce lien du baptême, qui est qu'on va vivre dans un prolongement dans notre consécration religieuse. En somme, c'est le Christ qui nous habite, hein, auquel on est incorporé, qui fait cette unité. Donc c'est intéressant de faire résonner cet aspect dans les vies de paroisse. Hein. C'est pas parce que je pense pareil qu'on est unis. Hein. Et des fois, on pense pareil et puis en fait, on se rend compte que ce sera peut-être la personne qui nous tendra le moins facilement la main quand on sera dans la difficulté. Donc il faut qu'il y ait une dimension surnaturelle dans l'union des cœurs pour pouvoir vivre quelque chose de cette unité de la Sainte Trinité, parce que c'est ça l'union. Hein. Je veux dire, on dépasse le très à la mode, moi je sais pas que je suis, même si faut bien en toute simplicité et en vérité, ça, je suis même un peu allergique à ce terme, fraternité. On l'entend à toutes les sauces, et puis on finit par dire, mais ça veut dire quoi au fait? Parce qu'il est dans toutes les phrases, mais par contre, il n'y a jamais autant de malheureux, quoi, et de gens en souffrance. Et la vraie fraternité, en fait, c'est celle que je viens de vous expliquer, donc cette communion qui fait qu'on est capable, en somme, de prendre sur soi et voire même de prendre la place de son frère qui est en souffrance. Parce qu'on le fait au nom du Christ, et c'est quoi la... Et qui a pris cette place? Ben, c'est Jésus sur la croix, c'est ça la vraie fraternité. C'est pas je te tape sur l'épaule et puis t'es mon meilleur ami. Et puis quand tu seras dans la difficulté, bah écoute, moi je fais la sourde oreille, quoi. Je partagerai pas comme Saint Martin mon manteau. Hein. C'est une unité idéologique. On est d'accord sur une face, sur une pensée, et la pensée en plus elle est unique. C'est même pas la nôtre. Donc là ça touche. Hein. On voit bien les combats aujourd'hui, ça touche l'essence du baptême. Et puis, ah, ça c'est le plus beau, c'est la marque spirituelle indélébile. Voilà. Et ça c'est bien d'en reprendre conscience, parce que aujourd'hui il y a des gens un peu extravagants et qui demandent hein, à la mairie de les effacer sur le registre hein, du baptême. Alors, bah oui, pourquoi pas mettre du blanco, mais on peut, il n'y a pas de souci, hein, on peut vous rayer sur la. Parce qu'il y a eu des histoires, vous connaissez ça mieux que moi, hein, des gens qui ont demandé. Alors, des gens qui sont en souffrance, bien entendu, moi je ne suis pas dans le jugement, mais alors, bah oui, on met du blanco sur la ligne, mais non. Et Dieu, il est beaucoup plus grand que ça. Et incorporé au Christ par le baptême, le baptisé est configuré au Christ. Le baptême scelle le chrétien d'une marque spirituelle indélébile de son appartenance au Christ. Cette marque n'est effacée par aucun péché. Même si le péché empêche le baptême de porter des fruits du salut, c'est sûr que si on n'est pas vigilant, comme je vous ai dit, il y aura un manque de croissance. La vie divine ne pourra pas se donner, parce que c'est un non-amour, le péché. Donné une fois pour toutes, le baptême ne peut pas être réitéré. Voilà. Alors, vous me direz, mais alors quand on est dans le péché, le péché mortel, parce que ça existe, hein, le péché mortel, eh bien... on va dire les signes que je viens de vous donner, les effets s'estompent, en somme il n'y en a plus, hein. La vie divine ne peut plus circuler, par contre on garde la marque. Donc quand la personne après, parce que d'autres se seront immolés pour elle, par contre ben voilà, les gardonneurs, ça sert à ça les gardonneurs, eh bien elle prend conscience qu'il faut reprendre le chemin du pardon et demander la réconciliation avec Dieu et ses frères, du coup avec l'Église, eh bien la vie divine, elle reprend dans son être. Et tout ça, justement, c'est grâce à cette marque indélébile qui fait que ben, Jésus le reconnaît encore un de ses enfants, même si, voilà, il s'est éloigné de Dieu. Vous voyez la grâce des grâces, hein, c'est ce qui nous permet en tout cas d'envisager hein, une sainteté. S'il n'y avait pas cette grâce, il n'y aura jamais la possibilité d'être un autre Dieu et changer la face de la terre. Alors, maintenant je vais rentrer, j'espère que j'ai toujours un petit souci avec mes horaires. Je vais donc du coup expliciter la suite, hein, comme je vous le disais, qui... S'il nous faut la grâce sanctifiante, mais alors voilà, ma voisine ou mon enfant ou ma tante, n'ont pas été baptisés et pourtant c'est des bonnes personnes, etc. Alors, déjà d'une part, comment appartient-on visiblement à l'Église? Par les sacrements. Donc si vous voulez être un membre visible de l'Église, vous devez vivre des sacrements. Par la foi en ce que l'Église enseigne, par l'obéissance au pape et aux évêques. Je rappelle, cette obéissance au pape et aux évêques, eux-mêmes obéissent à transmettre l'héritage de la foi comme les apôtres leur ont transmis. Le pape est là pour vérifier l'authenticité de la révélation de ce qui est amené à mûrir en fonction de l'actualité. Alors, il y a donc les schismatiques qui ont la foi, qui ont reçu le baptême et reçoivent même souvent d'autres sacrements, mais qui se sont séparés de l'obéissance du pape et de l'union à l'ensemble des évêques. Et il y a aussi les hérétiques, ça existe encore, qui sont baptisés et affirment l'autorité de Jésus-Christ, mais qui ne croient pas à l'enseignement de l'Église. Les infidèles qui ne sont pas baptisés et nient et ignorent l'autorité de Jésus-Christ. Le schisme est un péché mortel chez ceux qui sont schismatiques en sachant ce qu'ils font. Il faut avoir conscience de ce qu'on fait. Mais il y a certainement des hommes nés de parents schismatiques, élevés à l'intérieur du schisme et qui n'ont eu aucun moyen d'être instruits de l'autorité du pape et qui n'ont commis aucun péché en restant dans la religion où ils ont été élevés. Ceux-là gardent la foi dans le Christ avec la grâce reçue du baptême lorsqu'ils reçoivent des sacrements. Hein, donc, entre ceux qui volontairement sont schismatiques et ceux qui sont dans cette mouvance mais sans en avoir conscience, ils gardent la grâce du baptême. Par contre, quand vous savez ce que vous faites, vous êtes marqué par le baptême, donc vous gardez la marque indélébile, mais par contre, vous êtes dans le péché mortel. Donc là, il faut attendre que d'autres s'immolent, moi il n'y a que ça, hein, faut pas se mentir, pour qu'ils reprennent le chemin du pardon. Voilà, donc ceux qui maintiennent cette foi dans ce qu'on leur a appris et qui sont de bonne foi, ils reçoivent un accroissement de grâce, même s'ils sont dans l'erreur. L'hérésie est un péché mortel chez ceux qui savent ce qu'ils font. Mais il y a certainement certains d'entre eux qui ignorent pour ne pas être instruments de pour ne pas être instruits de leur enseignement de ceux de l'Église. Hein. Ceux qui n'ont pas été instruits par l'Église et qui sont dans cette erreur sont maintenus en somme dans ce péché mortel pour ceux qui savent ce qu'ils font et pas mortel pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. Ces personnes-là sont en ce qu'on appelle dans cette ignorance invincible. Ça, c'est un terme théologique. Et cette ignorance, alors je l'explicite parce que c'est pas expliqué. C'est justement, on le retrouve de moins en moins, on en parle de moins en moins. C'est un état du pauvre, un pauvre être qui n'est pas instruit parce qu'il n'en eut jamais les moyens. Et qui alors ne trouve au fond de sa conscience rudimentaire que des notions confuses du bien et du mal. Et aujourd'hui, on a affaire à des gens comme ça. Alors, c'est la condition du primitif arriéré, par exemple. Il y a certaines régions du monde, les missionnaires, nous, quand on reçoit dernièrement, il y en a un qui nous expliquait que là où il est missionné, les gens sont tellement rustres que dans leur intelligence, ils n'arrivent même pas à les rejoindre sur des choses très simples. Alors, ils ont une vie très rude, mais en somme, ils ne peuvent pas faire autrement. En somme, ils n'ont connu que ça. Donc, le cerveau, d'ailleurs, la conscience, tout ça n'est pas développé, parce que tout ça, ça se développe dans l'enfance. Hein. C'est d'où l'éveil hein, de l'éducation. Aujourd'hui, c'est la télé ou c'est Internet qui fait l'éducation. On se prépare. On construit des générations qui seront justement dans leur conscience, dans leur être, dans leur intelligence, incapables de faire la différence entre le bien et le mal, tellement c'est rudimentaire les moyens qu'ils ont à leur portée. Et là, si vous voulez, Dieu ne peut pas leur compter en fin de compte, le péché comme à quelqu'un qui aurait toute sa capacité, toute sa conscience pour prendre la décision, ben là je pêche. Hein. Déjà, il faut avoir conscience que c'est un péché, et en plus, ils sont dans une attitude où ils ne sont même pas capables de prendre conscience qu'ils sont dans le péché. Donc, ce n'est pas nous qu'allons dire que, du coup, la grâce sanctifiante n'est sans effet, et sans effet pour eux. D'accord ? Donc, ces gens-là qui sont dans cette situation, eh bien, ils sont dotés des effets de la grâce sanctifiante. Le baptême a son effet. Ils sont donc sauvés. Ceux qui vivent comme les infidèles n'ont pas été baptisés, mais connaissent ou ignorent le Christ. Bon, ça, il y en a autour de nous. Il y a parmi eux des cas certains d'ignorance invincible, donc comme je vous ai expliqué. Il est indiscutable que les sauvages d'Amérique avant Christophe Colomb n'étaient pas coupables de ne pas connaître le Christ. Il y en a parmi eux qui n'ont pas commis de péché mortel. Il est certain que ces justes qui n'ont pas commis de péché mortel ont été sauvés. Nul ne peut être damné sans avoir commis un péché mortel. Mais il est indiscutable aussi que nul ne peut être sauvé sans la grâce sanctifiante et sans la foi au Christ, que nul ne peut être sauvé sans être incorporé au Christ, source de toute grâce. Les justes qui n'ont pas été baptisés et à qui le christianisme n'a pas été prêché avaient donc la grâce sanctifiante et par conséquent la foi et étaient incorporés au Christ, appartenant invisiblement mais réellement à son corps mystérieux qu'est l'Église. Voilà, donc ceux qui, en somme, pour qui il n'y a pas de faute, enfin voilà, on ne leur a pas annoncé Jésus-Christ, voilà, ils l'ont en somme, je dirais c'est... ils n'ont pas besoin de faire la démarche, ils sont la grâce sanctifiante. L'Église du Christ est partout où l'on craint et bénit Dieu, dit saint Augustin. Tous ceux qui n'ont pas de mauvaise volonté, ne commettent pas de péché mortel, sont en paix avec Dieu, donc en état de grâce, sauvés par le Christ, membres de son corps. Nous avons donc à expliquer deux points. Premier, comment des âmes à qui le christianisme n'a pas été prêché ont-ils pu avoir la foi? Et comment des âmes ont-elles pu recevoir la grâce sans être baptisées? Pour éclairer ces deux problèmes, nous regarderons d'abord le cas des justes de l'Ancien Testament. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça. Avant la venue du Christ, et spécialement les plus éminents d'entre eux, par exemple Abraham et Moïse, ces justes de l'Ancien Testament n'avaient pas entendu la prédication de la doctrine du Christ, il n'était pas encore là, hein, et de l'Église, et pourtant, il est bien certain qu'ils avaient la foi. Saint Paul montre souvent que ces justes, et en particulier Abraham, avaient la foi et que le salut leur est venu par la foi. L'Église donne, même en l'exemple, la foi admirable d'Abraham, c'est le père des croyants, alors qu'il n'a pas été baptisé. Ils avaient la foi dans le Sauveur qui devait venir. Ils croyaient à ce que Dieu leur avait révélé. La foi ne suppose pas essentiellement la connaissance de toute la doctrine du Christ et de l'Église. La foi est essentiellement surnaturelle. Elle suppose essentiellement une révélation du Dieu infiniment supérieur à ce que peut en connaître la raison. Elle suppose la connaissance de Dieu comme sauveur des hommes. Voilà ce qu'il faut pour recevoir la grâce sanctifiante sans être baptisé. Ça appelle à la miséricorde, hein. Je sais pas. Moi, en tout cas, ça, voilà, je me dis, ben... Et nous arrivons au second problème. Comment des âmes ont-elles pu recevoir la grâce sans être baptisées? Abraham et Moïse avaient la grâce sanctifiante, étaient de grands saints et n'avaient pas reçu l'eau du baptême. Le problème s'est posé dans un cas très intéressant, le cas de ceux qui se font instruire de la doctrine du Christ et de l'Église et n'ont pas encore reçu le baptême et que l'on appelle des catéchumènes. La plupart ont déjà la foi et la charité et par conséquent la grâce sanctifiante. Au temps des persécutions, certains d'entre eux ont été martyrs. Ici, Saint Donatien et Saint Rogatien. Les évêques ont alors enseigné que leur martyre constituait un baptême du sang. qui remplaçait le baptême d'eau. Mais ceux qui mouraient avec le désir du baptême, avant d'avoir reçu le baptême, étaient aussi sauvés. Et il a fallu dire que le baptême de désir remplaçait le baptême d'eau. Voilà. Donc il y a des situations chez nos frères musulmans qui désirent le baptême dans leur cœur et qui ne pourront jamais se faire baptiser. Hein, on ne va pas se mettre à leur place, tout le monde n'est pas appelé au martyr. Ils reçoivent la grâce sanctifiante. Voilà. Sans passer par le baptême. Ce baptême de désir ou d'intention équivaut à la présence dans l'âme de la charité infuse par le Saint-Esprit. Aussi, les théologiens l'appellent encore baptême de feu. Le baptême dans l'eau est un baptême au nom de la Trinité. Un baptême dans le Saint-Esprit. Ceux qui, sans le baptême dans l'eau, ont la charité et par conséquent la grâce, sont en un sens baptisés dans le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi on parle, par analogie, d'un baptême sans eau et dans l'Esprit Saint. Mais ce baptême sans eau n'est appelé baptême que par analogie, car ce n'est pas un sacrement, la grâce n'y étant pas donnée par le moyen d'un signe visible. Il y a une petite différence. Il faut dire avec saint Thomas que le baptême d'eau produit son effet, qui est la grâce par la vertu de la passion du Christ et du Saint-Esprit. Mais le baptême d'eau, parce que la vertu de la passion du Christ et du Saint-Esprit n'est pas dépendante des sacrements et peut agir en dehors d'eux. En somme, la grâce sanctifiante, elle est conférée selon les situations différemment, hein, quand on passe par le baptême d'eau ou par le baptême du martyr ou du désir, ou simplement ceux qui ont foi que Dieu est le sauveur du monde de tous les hommes. Saint Thomas l'affirme. Donc, la passion du Christ et le Saint-Esprit ont justifié Abraham, Moïse, avant que le baptême soit institué, et peuvent aussi bien justifier, donc sauver, bon, justifier, par aujourd'hui les âmes de bonne volonté qui n'ont pas été instruites. Pas été instruite de la valeur et de la signification du baptême dans l'eau. Dieu regarde que la bonne volonté. Voilà. Il y a des situations dans nos familles de blessures, de rejet, d'incompréhension, d'éducation, d'époque aussi, hein, qui font que voilà, on n'a jamais été au-delà. Ces âmes qui ont la grâce avec la charité sans avoir été baptisées dans l'eau peuvent la perdre par un péché mortel, au même titre que nous qui avons été baptisés dans l'eau. Pour la retrouver, ils n'ont pas d'autre ressource que le sacrement de pénitence. Voilà. Par contre, après, toute personne, hein, qui se rend compte que... Parce que vraiment, c'est même s'ils ne sont pas passés par le baptême de par l'eau, comme on a dit, ils ont les mêmes effets que le baptême, que la grâce sanctifiante reçue par le baptême d'eau, c'est évident que le Saint-Esprit va leur demander de faire un pas supplémentaire. Normalement, ils ne doivent pas s'arrêter là. La seule différence qui va jouer, on va dire, sur ces personnes qui sont touchés par cette grâce sanctifiante, mais qui ne sont pas passés par le baptême, mais par contre, Dieu regarde leur bonne volonté, c'est la progression dans leur âme de la vie spirituelle. Sans prendre conscience de cette grâce sanctifiante, sans en vivre par les sacrements, sans en somme la développer par les sacrements, il n'y a pas de vie intérieure, il n'y a pas de racine. Et du coup, ils sont sauvés, mais il n'y a pas de vie en Dieu. Vous voyez ? Donc aujourd'hui c'est un petit peu je suis sauvée, c'est bon. Non, Dieu attend plus que ça. Il veut une vie avec nous, hein. Il veut nous partager sa vie. C'est l'enjeu de du baptême, hein. Donc quand voilà, quand on prépare des personnes au baptême, quand on a dans son entourage ces petits-enfants qui sont baptisés, mais il n'y a pas de vie, justement de sacrement, c'est de notre devoir, hein, d'évoquer justement cette grâce que, voilà, il est marqué, il est fils de Dieu, il est incorporé à l'Église, co-héritier de tout l'amour, hein, de tout ce qu'on a expliqué, donc les vertus théologales, cardinales, et puis les dons du Saint-Esprit. Mais pour qu'il se développe, pour que toute cette vie divine se développe dans la personne, il va falloir vivre des sacrements, vivre de cette union. Hein. Et c'est notre devoir en tant que garde-honneur, alors de grands-parents, de parents ou d'amis, hein, mais pas uniquement, hein, de garde-honneur, parce que on a, et ça c'est la vertu de justice, la vertu de justice ne s'exerce pas uniquement sur le côté pécunier, hein, elle s'exerce aussi sur qu'est-ce qu'on a à rendre à Dieu de ce qu'on a reçu. Hein. Alors, à cause de l'heure, je vais finir sur justement tout ce que j'ai pu vous dire aujourd'hui sur le baptême, sur cette grâce sanctifiante qui nous donne, hein, de ressembler à Dieu si on le veut, si on veut lui faire porter ses fruits. Ce temps de carême, nous, en tout cas, c'est l'Église qui nous le demande, c'est un temps privilégié pour travailler sur notre conversion. En plus, aujourd'hui, parce que avec nos sœurs du noviciat, on avance pendant ce carême sur on combine en même temps cette préparation à renouveler nos promesses de baptême avec les apparitions de Marie dans la grotte de Massabielle à Lourdes. Et aujourd'hui, elle apparaît mystérieusement, je trouve ça joli, elle apparaît aujourd'hui en disant à Bernadette « Pénitence, pénitence, pénitence pour les pauvres pécheurs ». Il faut savoir que Marie, elle a apparu pendant le carême. Hein, elle, à Lourdes, c'était le temps liturgique du carême. Et vous savez, mets-toi à mon école, hein, dit Jésus. Ils sont dans une démarche d'éducation. Hein, la Sainte Trinité du ciel nous éduque. Hein, et en apparaissant dans la grotte, Marie, elle utilise ce temps liturgique pour lui rappeler que, justement, cette grâce, parce que qu'est-ce qu'elle fait sortir c'était un fumier où on mettait les porcs, la grotte de Massabielle. Hein, et dans ce fumier, qu'est-ce qu'elle demande à Bernadette d'aller creuser? Qu'est-ce qu'il en sort? Une source de quoi? D'or? Non, d'eau. Et on n'a pas dit que justement l'eau est un des signes du baptême. Hein, et comment elle va se faire appeler quel va être son nom? L'Immaculée Conception. Apparaître au-dessus d'un tas de fumier et puis se faire appeler l'Immaculée Conception sans péché. Enfin, je trouve qu'il n'y a que Dieu pour faire ça. La catéchèse à travers cette apparition pour ce temps de carême. Voilà. Donc, elle mettait l'accent sur se purifier, du moins le purin, enfin ce fumier, le péché. Voilà. Et pour effacer, en somme, nous donner en somme des forces pour combattre contre le péché. Parce qu'on est pécheur, mais par contre, l'horreur du péché, Sainte Marguerite Marie, dès son plus jeune âge, quand elle va consacrer sa chasteté à Jésus entre 4 et 5 ans, Jésus lui donnera cette grâce d'avoir une horreur du péché. Et quand je vous invite en tout cas à reprendre les promesses de votre baptême et à quoi vous allez renoncer à la vigile pascale, renoncez-vous à Satan, j'y renonce. Renoncez-vous à toutes ses œuvres, c'est-à-dire au péché, j'y renonce. Quand on est tenté de pécher, voilà, est-ce que ce n'est pas la grâce à demander pendant le carême d'avoir une sainte horreur du péché? C'est une grâce, hein, à demander. C'est pas inscrit malheureusement en nous. Ben pourquoi? Je vous ai expliqué, hein, cette fragilité qu'il y a en nous à choisir le bien. La volonté de toujours aller vers le bien, on discute intérieurement cet enjeu entre le bien et le mal. Demander à travers nos pénitences pendant notre carême d'avoir une sainte horreur du péché pour justement avoir la force de rejeter toutes les tentations qui sont des fois, et ça je l'entends beaucoup d'entre vous, c'est soft, voilà, ça, c'est déguisé, on ne voit pas trop, quoi. C'est quand on est pris dedans qu'on dit, mince, je me suis fait avoir. À mon époque, alors moi, ça fait quand même quelques années que je suis là, mais c'était souvent, on regardait des fois en famille la télé, le soir un film, et puis ça commence à se compliquer au milieu. Et puis on avait les parents, on était gamines, hein, les parents, moi par grâce, j'ai jamais été très télé, donc j'ai jamais trop passé de temps devant. Et, mais voilà, les parents nous disaient, bon, on va éteindre parce que ça devient ridicule ou ça tourne mal. Nous, on veillait à ce qu'on ne nous fasse pas regarder les choses sales. Et du coup, à chaque fois on se faisait la remarque, on se disait toujours, bah, ça va peut-être changer, ça va peut-être s'améliorer au cours, sur la dernière demi-heure du film, ça va peut-être être mieux. Donc, bah, en fait, compte, on n'appuyait jamais sur le bouton pour dire c'est terminé, on voit bien que c'est pas intéressant. Ça apporte rien, ça termine mal, on éteint. Non, on attendait, et puis à la fin on disait, bah, de fait, on aurait dû éteindre, on a perdu notre temps, c'était ridicule. Voilà ce qui se passait. Et voilà, la force de rejeter, et on ne se rendait pas compte, si vous voulez. On se faisait le constat et à chaque fois on était repris dedans. La semaine suivante, il y avait un nouveau film en famille, et on se rendait compte que c'était encore idiot, parce que malheureusement, les programmes, ils ont été de plus médiocres, enfin voilà, médiocre en médiocre, pour apprendre à finir par arrêter de regarder. Mais voilà, c'est toute une éducation, mais sans la grâce, sans vivre de notre baptême, hein, sans renouveler ses promesses, on n'arrivera pas à percevoir dans notre quotidien toutes les ruses du démon. Voilà, à travers le péché qui se présente. Alors après, j'avance à cause de l'heure. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ? Je crois. Ah bon ? Là, il faut nous poser la question, aujourd'hui, où l'écologie prend énormément de place. Mais qui est à l'origine de la création ? Déjà, deux mois déjà. C'est moi qui me donne la vie. Voilà. C'est qui fait tourner le monde ? Voilà. Et là, quand on dit « je crois », ça nous renvoie au mystère de la providence. Est-ce que je crois que tous les événements qui me rejoignent viennent de Dieu ? Si vous dites le samedi de la veillée pascale, la veille du jour de Pâques 2024, je crois, alors que vous êtes en permanence en discussion avec les événements qui vous percutent, je suis désolée, vous n'y croyez pas. Si vous désespérez de notre monde, vous ne croyez pas non plus qu'il est tout puissant. Vous voyez comment on peut renouveler les promesses de notre baptême pendant le carême, hein ? Vous savez, le petit morceau de chocolat, vous voyez, c'est quand même un autre enjeu, hein. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père ? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, pour un garde d'honneur, au pardon des péchés ? Ah ! J'arrive pas à me pardonner quelque chose. Alors à toutes les confessions, je leur dis, mais là vous savez que vous péchez contre l'Esprit Saint. La confession, quand on a dit hein, que les paroles du sacrement, que ce soit le baptême ou le sacrement de pénitence, il est effectif par les signes qui sont utilisés et par la parole du prêtre. Je te pardonne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand on quitte le confessionnal, oui, mais c'est pas possible qu'avec ces mots-là, il ait pu me pardonner ce que j'ai fait, c'est atroce ce que j'ai fait. Ben si, si vous y croyez pas, ben vous pouvez pas dire je crois. Ouais. Vous croyez au pardon des péchés. On a des fois, hein, pas tous bien entendu, mais des fois on est traversé par des choses qu'on a fait par le passé. Ben là, est-ce que c'est pas l'occasion d'avoir raté quelque chose et de ne pas se pardonner. Le raté fait partie de la grâce. Eh bien, est-ce que ce n'est pas l'occasion pendant la préparation de la vigile pascale, pendant ce carême, de revisiter notre histoire et dire, en fait, oui, il y a des trucs auxquels je passe mon temps à reconfesser parce que je veux être sûre que ce soit pardonné. Non, c'est de l'orgueil. Voilà. À la résurrection de la chair, vous y croyez ça, à la résurrection de la chair? C'est vrai que les chrétiens de plus en plus ne croient plus à la résurrection de la chair. Hein? À la vie éternelle. Alors là, vivons bien, nous mourrons grave. Qui? Enfin, alors évidemment, je sais bien que vous croyez à la vie éternelle. Mais voilà, qu'est-ce que c'est pour moi la vie éternelle? Est-ce que ça oriente toute ma vie, la vie éternelle? Voilà, voilà pour les promesses. Vous voyez, hein, la... d'une petite ou d'une grande, parce qu'elles sont appelées les grandes apparitions, du Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie, aujourd'hui en 2024, la préparation, le temps du carême, la préparation de cette grande veillée hein, qui va nous redonner un nouveau souffle, hein, qui va nous on va réveiller dans notre baptême. Vous voyez l'enjeu hein. Et tout ça, c'est pour nous, pour notre entourage, mais et pour qui aussi en premier? Mais c'est pour lui, c'est pour Jésus. Plus vous allez renouveler justement cette grâce du baptême, plus vous allez lui donner de joie. Quelle est sa joie? C'est une sanctification. Plus vous serez saint, plus vous l'aiderez à sauver des âmes. Parce que tout le monde est sauvé, mais tout le monde n'accueillera pas le salut. Enfin voilà, même si, hein, c'est clair, il suffit de croire qu'il est le salut de tous les hommes pour être sauvé. Mais aujourd'hui, et ça, on ne peut pas malheureusement faire l'impasse, il y a des gens qui s'y refusent. L'enfer n'est pas vide. Hein, et ça, c'est une vérité de foi. Donc vous voyez l'enjeu, et rien ne peut se faire aujourd'hui, alors par le passé aussi, mais aujourd'hui encore plus, sans l'immolation, sans notre collaboration à pâtir pour nos frères et sœurs. Donc la communion des saints, la préparation, l'implication que vous allez avoir pour préparer votre carême, dans la communion des saints, vous en tirez avec vous. Qui n'a pas un de ses enfants qui prend de la distance ou qui a carrément pris la distance par rapport à la foi? Alors moi, je vous dirais, enfin, faut des fois se regarder en arrière et regarder soi-même. On dit des fois, bah, nous-mêmes, on a pris à une époque de la distance. Puis aujourd'hui, on est devenus des habitués de la messe quotidienne. Hein. Donc, il n'y a jamais rien perdu pour Dieu. Hein. On n'a pas le même langage et surtout les mêmes lunettes et surtout le même cœur. Hein. Donc, ça, c'est à travailler. Mais ceci dit, avec cette lumière qu'on reçoit à travers la grâce du baptême, on a à lever son petit pied. Voilà. Et c'est ce que je vais faire avec vous, parce que je crois que j'ai, à mon avis, un petit peu dépassé. C'est ce que je vais faire avec vous pendant ce temps du carême. Hein, d'être dans cette démarche ben voilà, qu'est-ce que c'est pour moi le péché? Est-ce que voilà, il y a des compromissions? On entend des fois, Dieu ne demande pas ça. Oui, mais par contre, des fois, il demande aussi. Hein. Donc, il demande aussi des sacrifices. Donc, j'ai pas parlé, hein, bien sûr, de la pénitence corporelle, voilà, les privations corporelles, c'est-à-dire alimentaires. Ça en fait partie, il y a le jeûne, et on peut y avoir recours, il faut faire attention à sa santé, c'est certain, mais on n'est pas obligé, là aussi, ne limitons pas, je vous ai tout à l'heure évoqué, même si j'étais peut-être choquée à ce moment-là, que comment dirais-je, Dieu peut supplanter un traitement médicamenteux. Ça j'y crois de plus en plus, que Dieu, comment dirais-je, nous a fait. Si on a une vraie vie avec lui, il peut remplacer, en tout cas il peut nous redonner un peu de santé pour faire sa volonté. Hein. Comme il peut des fois, c'est certain, nous rappeler plus vite à lui parce que on aura du haut du ciel la capacité de tirer les nôtres vers le haut. Ça le regarde. Hein. Là en vous disant ça, je ne lui donne pas d'ordre. Mais ce qui veut dire que si on se prive d'un repas pendant une journée, sur le temps du carême, il ne faut pas croire qu'on va comment dirais-je, trépasser à ce moment-là. Hein. De sentir dans sa chair la faim, par exemple, pendant toute une journée, parce qu'on a jeûné un repas, c'est pas mortel. Hein. Et le vivre, remplacer son repas, par exemple, à la place en allant prier le chapelet, parce que se priver d'un repas pour passer plus de temps, par exemple, sur Internet, vous pensez bien que l'objectif n'est pas atteint. Oui, ça fait rire, mais malheureusement, il y a des fois, j'ai entendu, moi, je jeûne parce que comme ça, je vais perdre quelques kilos. Ben non, quoi. Aujourd'hui, tout est mélangé, si vous voulez. On n'est plus dans cette orbite de la vie éternelle, le salut du monde. Hein? Donc, c'est sûr que ça soulage. On est, d'abord, c'est le but, hein, le but, c'est un des éléments du jeûne. On est plus léger, donc on est moins pris dans sa tête et dans son corps pour la prière. On est plus disponible à la prière. C'est l'avantage du jeûne. Mais n'oublions pas pour qui et pourquoi nous le faisons. Donc, moi, je rends grâce hein, si vous n'êtes pas pris dans ces... Mais on entend, vous voyez, voilà, des discours, parce qu'on est influencé par des modes, hein, et on calque la désintoxication, la journée de détox, j'entends ça, et hop, le curseur, on en arrive sur le jeûne du carême. Ah ben non, je suis désolée, manger des pommes toute la journée, c'est pas le carême. Vous voyez, derrière, doucement, on glisse, voilà. Donc, j'ai plus besoin de jeûner pendant le carême parce que moi, je fais toujours ma journée détox par semaine. Une journée de détoxication du corps, ça fait partie d'une hygiène de vie. C'est pas pareil. Voyez ? Voilà, je m'arrête là. En tout cas, je vous souhaite un saint carême. Et puis, on se retrouve, je crois, alors le 20 mars pour la prochaine formation. Je fais part du 9 mars auquel vous êtes invités. Alors, il y a une affiche à l'entrée de la chapelle. Donc c'est la journée qui rassemble le temps qui rassemble tous les amis de la communauté. Là donc à 14h c'est l'assemblée générale, à 15h c'est la sainte messe et à 15h30 donner le témoignage de Madame Drapeau qui est une dame qui s'est convertie en vénérant l'anneau de Jeanne d'Arc, de Sainte Jeanne d'Arc. Et donc elle a un témoignage fort à nous. Justement, à nous donner d'un baptême, d'une grâce sanctifiante qui était, à mon avis, sous la cendre et qui, par justement l'initiative de Dieu, hein, à travers Sainte Jeanne d'Arc, parce que l'anneau, une relique, mais rend visible la sainte, c'est ça les reliques, hein, et là, je veux dire, Sainte Jeanne d'Arc l'a secouée fraîchement parce que du coup, elle s'est convertie. Et elle a entraîné dans sa conversion sa famille. Hein. Et puis d'autres, parce que moi je ne la connais pas suffisamment, mais je serais comme vous, je l'écouterais. Mais voilà son aperçu de ce témoin, de tout l'enjeu de la communion des saints. La manière dont je vais vivre mon carême, j'entraîne dans l'invisible des membres de ma famille qui sont des fois bien loin de Dieu. Alors c'est sûr que le jour de Pâques, ils ne vous en parleront pas, bien sûr. Ça se vérifiera à un autre moment de la vie. Peut-être sur le lit de mort, hein, sur le lit d'agonie. Mais l'important, c'est jusqu'à la dernière minute, ça reste important. Voilà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. On se confie à Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cœur sacré de Jésus, Notre-Dame du Sacré-Cœur, Saint Joseph, Saint Jean, Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal, Saint François d'Assise et Sainte Marguerite Marie. Bienheureuse Marie de Jésus de l'huile Martini. Bienheureuse Maria Gabriella et ses compagnes. Et Sœur Marie du Sacré-Cœur Bernot. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Voilà, grande union. Merci.